C'est pas faux. L'émission qui vulgarise sans être vulgaire.
Ouais, c'est pas faux.
Bonjour tout le monde, bonjour Violette.
Bonjour Imran, bonjour à toutes et à tous.
Bienvenue dans C'est pas faux, l'émission de vulgarisation scientifique de Radio Phoenix.
Aujourd'hui, nous allons parler de l'histoire des pandémies. À quelle pandémie avons-nous été confrontés à travers le temps? Comment la Normandie a-t-elle été impactée? Et quels étaient les moyens disponibles pour se protéger?
Notre invité du jour pour répondre à nos questions est Christophe Manœuvrier, maître de conférences en histoire à l'Université de Caen, enseignant-chercheur en histoire médiévale et directeur adjoint de la Maison de la Recherche en sciences humaines.
Mais tout de suite, notre flash avec les infos sciences de la semaine.
Et on commence ce flash en parlant d'océan, nous vous en avons parlé. La semaine dernière se tenait le One Ocean Summit à Brest. De nombreux acteurs professionnels, politiques et associatifs en lien avec les océans étaient invités à débattre et à trouver des solutions durables pour protéger nos océans qui sont largement menacés par la crise climatique. Une trentaine de chefs d'État et de gouvernement se sont engagés vendredi dernier autour d'Emmanuel Macron à mieux protéger les océans qui, selon le sommet, sont indispensables à la régulation du climat, riches en biodiversité, mais aussi mis à mal par les activités humaines. Dans le détail, trois grandes propositions ressortent du One Ocean Summit. Au moins 80% des fonds marins seront cartographiés d'ici 2030. C'est un engagement de l'ONU pour l'éducation, la science et la culture. Le président de la Polynésie française a annoncé la création d'une aire marine protégée, 500 000 km² dans l'archipel des îles australes de Polynésie. Et précisons que cette zone sera réservée uniquement à la pêche artisanale et vivrière. Et enfin, Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, a annoncé un traité pour protéger la haute mer avec une coalition des 27 États membres de l'UE et de 13 autres pays. Les négociations pour ce traité continueront au siège des Nations Unies à New York en mars.
Un test salivaire pourrait-il accélérer le diagnostic de l'endométriose? Mal connu, ignoré, sous-diagnostiqué et parfois très difficile à vivre, l'endométriose concerne une femme sur 10. Cette maladie complexe apporte avec elle son lot de douleurs, de troubles et de complications, pouvant aller jusqu'à l'infertilité. En moyenne, il faut compter 8 ans entre la première apparition des symptômes et le diagnostic officiel. Pour accélérer ce diagnostic, la start-up française ZeeWeeg a annoncé la sortie du premier test salivaire, une avancée mondiale dans la détection de l'endométriose. Baptisé EndoTest, ce test salivaire est basé sur une technique d'intelligence artificielle de séquençage des micro-ARN présents dans la salive. En d'autres termes, des données relatives à des millions de fragments d'ADN et d'ARN sont analysées en simultané, et cette combinaison technologique permet de savoir si oui ou non une femme souffre d'endométriose. Pour cela, les femmes réalisent elles-mêmes le prélèvement à domicile au moyen d'un kit et doivent le renvoyer au laboratoire qui délivrera ensuite le diagnostic en quelques jours seulement. Cette avancée clinique s'inscrit donc dans le plan de lutte nationale qu'Emmanuel Macron a annoncé le 11 janvier dernier en déclarant vouloir mieux détecter la maladie.
Un traitement pour le Covid made in Normandie. L'Agence européenne des médicaments a reconnu que le lenzilumab était actuellement l'un des 10 traitements les plus prometteurs pour lutter contre une infection au Covid-19. Cet anticorps monoclonal, créé par le laboratoire américain Humanigen, est actuellement en phase de test, mais il pourrait prochainement être utilisé pour empêcher, lors d'un Covid, la réaction immunitaire disproportionnée observée dans les formes graves de l'infection qui aboutissent en service de réanimation. En prévision d'une autorisation en Angleterre et d'une probable autorisation en Europe, le laboratoire américain a donc signé un partenariat avec une entreprise normande. L'heureux élu est Cenexi, sous-traitant de l'industrie pharmacologique, spécialisée dans le développement et la fabrication de produits pharmaceutiques. L'entreprise est située à Hérouville-Saint-Clair et permettra donc une répartition en flacons de manière aseptique, ainsi qu'un conditionnement made in France. D'ici un an, 1 million de flacons lenzilumab devraient sortir chaque année de lignes de fabrication de l'usine.
Mardi dernier, la Commission européenne a débloqué 43 milliards d'euros pour l'industrie des microcomposants. La crise des semi-conducteurs, conséquence directe de la crise de la Covid-19, freine le secteur industriel en raison d'une pénurie de puces électroniques, à l'heure où elles sont de plus en plus présentes dans nos vies à travers les voitures, téléphones, ordinateurs, lave-linge ou encore dans les centres de stockage de données. L'automobile est l'un des secteurs les plus touchés par cette pénurie. À titre d'exemple, Renault enregistre une perte de production de 500 000 véhicules sur l'année de 2021. La dépendance au marché électronique asiatique a été pointée du doigt puisqu'elle fournit près de 70% des semi-conducteurs dans le monde contre 10% pour l'Europe. Avec l'annonce de ce plan nommé Ships Act, le commissaire européen du marché intérieur Thierry Breton présente un projet pour quadrupler la production de puces d'ici à 2030. L'objectif étant de faire rayonner l'Union européenne à travers ce marché, protégeant ainsi l'UE des risques géopolitiques qui pourraient mettre à l'arrêt le secteur économique lié aux semi-conducteurs.
Vous écoutez C'est pas faux sur Radio Phoenix.
À travers les siècles, de nombreuses maladies sont venues ravager les sociétés. Vous avez probablement déjà entendu parler de la peste noire, la première pandémie qui, à elle seule, a fait plus de 25 millions de morts entre 1347 et 1352. Alors, plus ou moins virulente, parfois localisée et souvent mal identifiée, retraçons le parcours de ces maladies qui ont modifié le paysage mondial et les populations à travers les époques.
Pour nous parler de l'histoire des pandémies et des impacts sur le secteur de la Normandie, nous accueillons en studio notre invité, Christophe Manœuvrier, bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes maître de conférences en histoire et enseignant-chercheur en histoire médiévale à l'université de Caen.
Alors avec votre regard d'historien, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est une épidémie et la différence qu'il y a avec une pandémie ?
D'abord, les deux termes ont une même racine étymologique. Ils viennent du mot grec « demos » qui veut dire « peuple ». Donc c'est dans les deux cas, ce sont des maladies qui affectent une population, donc pas un individu, mais une population. Ensuite, c'est une question d'échelle. Une épidémie est limitée dans le temps, dans l'espace, donc dans la population qui est concernée. Elle peut être très mortelle, bien sûr, mais elle est limitée. Alors que la pandémie est une épidémie, en quelque sorte, qui se diffuse massivement dans des espaces très larges, et qui généralement dure dans le temps.
Alors, en introduction, on a évoqué la peste noire du XIVe siècle, mais est-ce qu'il y a eu d'autres grosses épidémies ou pandémies qui ont marqué l'histoire ?
Alors, il y a eu de graves épidémies dans des temps très anciens, et de graves pandémies aussi, parce qu'il faut avoir à l'esprit que le phénomène de mondialisation qu'on connaît aujourd'hui, mise en contact de populations qui sont éloignées géographiquement, est très ancien. La diffusion des populations à travers la planète s'est faite sur un temps long, évidemment, mais sur de très longues distances. On peut le voir, par exemple, à travers l'étude des langues, leur diffusion dans le monde. Donc, le phénomène de mondialisation, c'est un phénomène qui s'est accéléré, mais qui est très ancien. Alors, dans les temps très anciens, vous avez parlé de la peste noire, 14e siècle, mais il y a d'autres épidémies qu'on connaît qui sont plus anciennes. Par exemple, la peste qu'on appelle justinienne, qui s'est diffusée dans tout le bassin méditerranéen, d'abord au 6e siècle, alors on estime qu'elle débute dans les années 541, a été extrêmement meurtrière et a totalement déstabilisé le monde byzantin, le monde grec, le monde romain, et probablement aussi l'ensemble d'un très large bassin parisien. Plus anciennement, on a des attestations d'épidémies ou de pandémies, c'est toujours là difficile à évaluer, dans la Bible, en Égypte, les plaies qui s'abattent sur les Égyptiens, parmi ces plaies il y a la peste. Et si on en a gardé trace dans la Bible, c'est probablement parce que ça a été une épidémie ou une pandémie très grave. Donc, il y a probablement aussi d'autres pandémies très anciennes, mais sur lesquelles on est peu documenté ou pas documenté du tout. Et parfois, la recherche historique avance, par exemple par l'archéologie, pour mettre en évidence des épidémies anciennes qui ne sont pas documentées par des textes.
Est-ce que c'est le nombre de morts de ces épidémies qui les ont fait entrer dans l'histoire ?
Ce qui les a fait entrer dans l'histoire, en fait, c'est le regard qu'on a bien voulu porter sur elles. Par exemple, lorsque les Européens arrivent en Amérique, on sait qu'ils amènent avec eux des maladies, la variole entre autres, mais aussi d'autres maladies, contre lesquelles les populations locales ne sont pas du tout immunisées et qui vont être extrêmement meurtrières. Bon, ces épidémies-là ou ces pandémies-là sont très mal documentées. Donc ce qui fait entrer, on va dire, une pandémie ou une épidémie dans l'histoire, c'est sa documentation et c'est le travail que les historiens vont faire dessus. Par exemple, l'Amazonie. Aujourd'hui, on imagine l'Amazonie comme une région quasi vide d'hommes et de femmes, évidemment. Hein, voilà, c'est un terme générique. Jusqu'à une date récente, en dehors des phénomènes de colonisation récents, on sait aujourd'hui que ce n'était pas le cas. L'Amazonie a été peuplée dans ce qui correspond à notre Moyen-Âge, en gros, avant l'arrivée des Européens. Et les populations caribéennes, les populations toupies, ont été décimées par des épidémies apportées par les Européens.
Et alors, et ces épidémies et ces pandémies, elles ont fait des ravages sur la population. Vous nous parlez de l'Amazonie, on a parlé du bassin méditerranéen. Mais comment est-ce que cela se manifeste sur le secteur de la Normandie et à Caen ?
Alors, pour ce qui est d'une histoire locale ou régionale, la documentation pour les périodes très anciennes nous manque. Par exemple, je parlais de la peste justinienne, donc qui dure du 6e au 8e siècle. On sait qu'elle a été présente. On voit les effets dans la déstructuration des sociétés, dans leur transformation rapide, etc. Mais on n'est pas documenté localement. Même pour des pandémies un peu moins anciennes, par exemple pour l'épidémie de peste, dite peste noire au XIVe siècle, la documentation manque encore une fois, on a du mal à l'évaluer. Mais on a des témoignages qui montrent qu'elle est bien présente. Alors plus on avance, plus on se rapproche de notre époque, plus la documentation devient importante, parce que l'écrit se diffuse, parce qu'on prend l'habitude à partir d'un certain moment de compter, par exemple compter les morts et enregistrer les raisons probables ou possibles de leur mort. Donc c'est en fait très variable. On peut mesurer ces épidémies dans les époques récentes quand, par exemple, de plus en plus finement, quand la statistique se répand à partir du 19e siècle, en gros, quoi.
Qu'est-ce qu'on faisait des morts à cette époque ?
Bien, justement, c'est une grande question. Quand ils sont très nombreux, on a du mal à les gérer. C'est un vrai problème. Et encore au XXe siècle, hein, lorsque, par exemple, au moment de la grippe espagnole, la presse est un petit peu gênée parce qu'elle a envie d'en parler. Mais il ne faut pas désespérer les populations. On est en octobre 1918, on est à la fin de la guerre. Hein.
Il y a une forme de censure peut-être aussi.
Alors il y a une forme de censure, il ne faut surtout pas diffuser des informations qui pourraient entamer le moral de l'arrière. Mais en même temps, c'est un fait qui est tellement présent qu'on ne peut pas ne pas en parler. Et puis, il y a des mesures qui sont prises pour éviter la contagion et la contamination, donc il faut bien diffuser ces informations. Donc si on diffuse ces informations, on parle de la grippe. Donc voilà, il y a tout un travail journalistique qui est très intéressant à analyser. Je ne crois pas d'ailleurs qu'il y ait eu vraiment d'études hein, de fait de mener sur ce point. Et là, on raconte par exemple dans la presse qu'on entasse les cercueils dans l'hôpital du Bon Sauveur parce qu'on ne sait pas quoi en faire. Parce qu'on manque de bras pour creuser les tombes, parce qu'on manque de prêtres pour célébrer les obsèques, parce que voilà. Et ça, on est en 1918, c'est il y a 100 ans.
Alors justement, je prends comme exemple la peste qui a été extrêmement violente pour les populations. Il y a aussi donc, la grippe espagnole qui a provoqué 100 millions de morts. Il y a une des conséquences qu'on ne voit pas au premier abord, c'est les conséquences sur la population et sur la société. On parle de perte de confiance, déjà entre les individus, mais aussi dans les autorités religieuses, militaires. C'est quoi les conséquences à long terme de ces pertes de confiance ?
Alors, on peut caricaturer les choses en disant un peu même cause, même effet, même si ce n'est pas tout à fait juste, parce que évidemment les sociétés sont différentes, donc dans le temps et dans l'espace. Donc, ce n'est pas automatique, mais il y a quand même des traits qui reviennent. D'abord, la question démographique, le nombre de morts. Ça, évidemment, ça a un effet sur les populations. Alors, ça peut aller d'une quasi-extermination en Amazonie, hein, on a des groupes qui ont disparu, ou bien ça peut être des effets plus limités, plus réduits. Mais dans tous les cas, d'abord, l'effet démographique est important. Ça veut dire qu'en termes d'emploi, par exemple, en termes de, structuration de la société, ça a des effets importants. La peste noire a créé un besoin en main-d'œuvre absolument incroyable. En Europe, alors c'est 30-50% de la population qui disparaît, on va dire, en quelques années. Mais à l'échelle du siècle, parce qu'après les épidémies reviennent, c'est plus de la moitié de la population qui disparaît. Et quand on voit l'esclavage revenir, par exemple, dans la péninsule ibérique, alors l'esclavage qui n'est pas au départ un esclavage strictement de provenance africaine, hein. Il y a d'autres voies d'autres flux, on va dire, de captifs. Mais le retour de l'esclavage est une réponse, en quelque sorte, à ce manque de main-d'œuvre. Bon, ça change complètement une société, ça change complètement les structures sociales, les structures économiques, les croyances religieuses, le caractère irrationnel que l'on voit à notre époque, où on voit des gens se tourner vers des soutiens, voilà. Donc tout cela a aussi des effets nombreux. Donc c'est toute la manière de penser, toute la manière de vivre, de s'organiser en société qui est affectée.
Alors justement, en parlant de perte de confiance, récemment, on en a constaté une à cause de l'épidémie du Covid-19. C'est la défiance contre le vaccin. Alors le vaccin, c'est une avancée qui a été permise par justement des épidémies, qui a été généralisée par Louis Pasteur au 19e siècle, mais qui est une invention de Edward Jenner, un médecin de campagne britannique du 18e siècle. Alors à l'époque médiévale, il n'y avait pas de vaccin. Comment les habitants faisaient pour se protéger ?
Alors la protection que la population peut mettre en place, évidemment, dépend de son niveau de maîtrise scientifique et de sa connaissance scientifique. Quand on ne sait rien de la manière dont la maladie se transmet, on est complètement désemparé. Et je pense que ça a eu un effet sur la manière dont on a vécu ces épidémies au XXe siècle, entre la Seconde Guerre mondiale, on va dire, et puis notre époque, où la science a tellement progressé, tellement rapidement, elle a tellement permis de limiter ces épidémies, de les réduire, et encore avec le Covid, quand on voit la vitesse à laquelle on a mis en place, identifier... coronavirus, le séquencer, mettre en place le vaccin. Enfin, tout ça, ça fait extraordinairement vite. Donc, dans les temps anciens, on est extrêmement dépourvu parce que la connaissance que l'on a du mal n'est pas du tout connue. Donc, on va chercher des explications extérieures. On va chercher des explications extérieures. Ça va être une punition divine. C'est la Bible. Hein, c'est la peste qui s'abat sur les Égyptiens. C'est une punition divine. C'est aussi ce que l'on voit dans la peste noire, avec certains vont considérer que le royaume ou la population du royaume s'est mal comportée et que Dieu cherche à les punir. On va chercher des boucs émissaires. Au XIVe siècle, les boucs émissaires, ce sont les Juifs, hein, qui font l'objet de pogroms absolument incroyables et qui sont c'est un phénomène du royaume de France, mais c'est aussi un phénomène européen qui vont être chassés à la fin du XIVe siècle en France. Et puis, on voit ce que ça a donné ensuite en Espagne, au Portugal et partout. Donc, on cherche des boucs émissaires et puis on attend que ça passe. Et en fonction du moment, on a compris qu'il y a une contamination entre êtres humains. Alors, on essaie d'isoler, mais en même temps, on prend la fuite. Alors, on va diffuser la maladie. Les réactions, on va dire, médicales ou possiblement médicales sont, là encore, très variées selon le niveau de connaissance médicale que l'on a à l'époque.
C'est-à-dire qu'en fait, les lacunes dans la recherche et dans la communication peuvent venir justement de ce manque de communication et d'information auprès des citoyens, des médecins, on va dire, parce qu'il y avait des médecins au Moyen-Âge. Ça vient de là, en fait, ce manque de protection des habitants.
Oui. En partie, c'est-à-dire que il y a une médecine, par exemple, si on prend les grandes épidémies, parce qu'on pense peste noire, mais il y a de grandes épidémies, pendant tout l'Ancien Régime, hein, 16e, 17e, 18e siècle. Au 16e, 17e siècle, les médecins travaillent activement à la recherche sur comment soigner ou comment prévenir la contamination. Alors les médecins, ce sont les universitaires, on le voit à l'échelle locale, à Caen, hein, il y a plusieurs traités qui sont rédigés. Parfois, on va à rebours de certaines croyances. Par exemple, des médecins, au début du XVIIe siècle, ont compris que pour prévenir la maladie, le jeûne n'était pas une bonne chose, parce qu'il affaiblissait le corps. Mais ça va à rebours dans tout un nombre de croyances, donc il faut convaincre la population, les individus, que non, mangez, ne vous abstenez pas de manger, c'est une sorte de jeûne purificatoire, etc. Donc mangez sainement, il y a des recommandations qui sont faites. Lavez-vous, alors on ne sait rien des microbes, évidemment, mais on a compris que ce que nous on va appeler hygiène, que un certain niveau d'hygiène permet de se, pas de se protéger, mais de limiter les risques de diffusion. Donc on va encourager les choses. Mais évidemment, tout cela prend du temps et il faut que la population le reçoive et l'admette.
Il y a à ce propos une anecdote d'après laquelle le cidre normand, je précise, serait un remède miracle. C'est un conseil assez folklorique qu'a porté le médecin normand Julien de Pommiers. Plus largement, à l'époque médiévale, la médecine moderne n'était pas inventée, donc il y avait énormément de croyances. Est-ce que c'est pour ça qu'il y avait beaucoup de maladies?
Alors le texte de Julien de Pommiers est intéressant parce que c'est un médecin qui écrit donc à la fin du XVIe siècle. C'est un médecin qui écrit un traité pour se préserver de la peste. Et lui, il fait partie de ces gens qui disent non, mangez, ne vous abstenez pas de manger, mangez sainement. Et il donne des éléments, ce qui est pour lui une bonne alimentation. Alors manger de la viande bouillie, de la viande crue, de la viande rôtie ou bouillie, manger diversifié, ne mangez pas trop. Bon, et buvez des choses saines, ce qui pour lui est... Alors c'est pour ça qu'il dit dans son traité, les régions de viticulture, buvez du vin clair, pas du vin lourd, pas du vin chargé, et en Normandie, buvez du cidre. En fait, c'est pas un moyen de... Il ne pense pas que le cidre va empêcher la transmission de la maladie, mais ça fait partie de ce régime alimentaire qu'il propose pour tenter de prévenir.
C'est un peu de l'invention du bien-être.
Oui, et disons qu'il avait probablement compris qu'une bonne alimentation permet de rester en bonne santé. En tout cas, que la maladie touchait les plus faibles. Et ça, c'est très empirique, mais on l'a vu, la maladie touche les plus faibles, les plus fragiles, les personnes les plus âgées, les enfants, qui sont les premières victimes. Et ça, je pense que les contemporains ne peuvent pas ne pas le voir.
Dans l'évolution du bien-être et du soin, on a vu qu'on pouvait aussi se protéger au Moyen-Âge avec des plantes. D'où vient cette croyance? Est-ce que c'est l'ancêtre, la plante, l'ancêtre du médicament?
Alors, on essaye. Ces médecins ont des démarches j'ai du mal à mettre l'adjectif, hein, voilà, vous m'entendez, hein, à dire scientifique. Parce que ça ne repose pas sur des processus d'expérimentation mesurés comme nous on l'entend. Mais d'une manière pragmatique, il y a tout de même cet effet. On caricature les médecins médiévaux en disant qu'ils étaient incapables de faire, par exemple, des dissections. Non. On fait des dissections. Hein, ce sont des choses qui existent, qui sont évidemment combattues par l'Église, mais les médecins les font parce qu'ils veulent comprendre comment fonctionne le corps humain. Et donc, voilà, même si ce n'est pas tout à fait une expérimentation comme nous, on la conçoit, ils font en tout cas des expériences. Et oui, ils font des expériences avec des produits, ils en tirent des conclusions qui peuvent nous paraître surprenantes ou qui, au contraire, ont des effets parfois sur certaines maladies. C'est une façon de faire avancer la connaissance, en tout cas.
Alors, vous restez avec nous, on va continuer la discussion juste après une pause musicale avec Mitski, Stay Soft sur Radio Phoenix. We'll be right back. C'était Stay Soft de Mitski sur Radio Phoenix. Vous êtes toujours dans C'est pas faux. On continue la discussion sur les épidémies et les pandémies à travers l'histoire avec Christophe Manœuvrier, enseignant-chercheur en histoire médiévale à l'Université de Caen.
Alors Christophe Manœuvrier, est-ce que l'on retrouve des similitudes entre la façon de se protéger au Moyen-Âge et la façon de se protéger des pandémies actuellement ?
Alors l'expérience face à une épidémie nouvelle ou à une maladie qu'on ne connaît pas, l'expérience montre que les réactions, les premières réactions sont souvent assez proches. Et en effet, alors, première réaction souvent, quand une maladie nouvelle arrive, on a peur. Donc quand on a peur, qu'est-ce qu'on fait ? On fuit. Alors, c'est une très bonne idée parce que ça va propager la maladie partout. Et donc, assez vite, en fait, les autorités cherchent à empêcher les gens de fuir. Donc, on ferme les villes, on les isole.
On les confine.
On les confine, voilà, on les confine. Alors, d'une manière plus ou moins ferme, et tout va dépendre du pouvoir de l'autorité sur la ville. Quand l'autorité est forte, eh bien, ces confinements sont assez efficaces. Hein. On le voit, par exemple, 1720, c'est ce qu'on considérait être la dernière grande épidémie de peste au XVIIIe siècle. Les autorités urbaines, à ce moment-là, sont très solides, elles sont expérimentées, et on décide d'isoler, de fermer, de confiner Marseille pour empêcher que l'épidémie se diffuse, et ça fonctionne pas trop mal. On a des cas plus anciens, hein, à Caen. Au début du XVIIe siècle, il y a toute une vague d'épidémies, c'est une période très très difficile. On considère qu'il y a encore une fois 30-40% de la population qui disparaît en une génération. Hein. Ce sont des moments très très durs que cette première moitié du XVIIe siècle. Eh bien, on ferme la ville, on demande aux gens qui sont suspectés d'être atteints par la maladie, on parle de peste, hein, c'est un terme générique, ça veut tout dire, hein, de rester chez eux. Si ces personnes sortent, il y a des sanctions qui tombent. Et puis, dans certains cas, elles sont autorisées à sortir, mais avec des conditions, porter un habit particulier, ne pas toucher les marchandises sur les étals, etc., pour éviter la transmission. Donc on retrouve des choses qu'on a pratiquées à partir de 2020, hein, les recettes.
Est-ce que ça veut dire qu'il y a une certaine récurrence aussi dans la façon de se protéger des épidémies, des pandémies, et aussi une récurrence dans les pandémies en elles-mêmes ? On la retrouve souvent, on parle beaucoup de la peste, pour un terme général.
Alors, peste, c'est un mot qui ne veut pas dire grand-chose, puisque c'est une maladie qui se diffuse rapidement. Voilà, voilà ce que veut dire peste dans les temps anciens. Ce n'est pas comme nous, toujours ce double sens, hein, ça peut être la maladie dite de Yersin, hein, voilà, bon, bien identifiée d'un point de vue médical, ou quand on dit c'est une peste qui arrive, voilà, c'est une calamité, voilà. Donc oui, il y a des récurrences. Alors maintenant, on est capable de les identifier, hein, ces maladies du passé. On est capable de les identifier d'un point de vue médical. Ce que l'on ne savait pas faire, évidemment, il y a encore même 50 ou 100 ans. Hein.
Alors quelles ont été les grandes conclusions que les médecins ont pu tirer des épidémies et des pandémies à travers l'histoire ?
Je pense que la première chose, c'est la contamination. Et donc, le fait de se prémunir, d'utiliser ce qu'on appelle, nous, aujourd'hui, des gestes barrières. Éviter, réduire les contacts sociaux. Alors, par exemple, en 1626, on retarde la rentrée universitaire. Parce que la maladie est présente et on ne veut pas que les gens se retrouvent et risquent de se contaminer les uns les autres. On va retrouver ça à toutes les époques. Des gestes simples d'hygiène. Alors nous, on se lave les mains. On sait pourquoi, on l'a expliqué, je pense que c'était très empirique. Mais face au choléra, par exemple, au XIXe siècle, on a compris que le choléra, il se diffuse dans les quartiers populaires, dans les égouts qui sont aériens encore, à Caen, le petit Odon traverse la ville et les maladies se diffusent par là. Donc, on a compris qu'il fallait mettre fin à ce système. Et la reconstruction, après 1944, va enterrer tous ces anciens cours d'eau, hein, pour des raisons d'hygiène. Donc voilà des grands traits, on va dire, qui sont peut-être un peu récurrents.
Donc ce sont les pandémies et les épidémies du Moyen-Âge qui vont marquer la naissance de l'hygiène et du soin en France, oui, dans le monde.
Alors, la naissance, en fait...
Qui vont y contribuer à son essor.
Plutôt. Alors, oui, surtout, on a constamment un regard... les sociétés ont des regards variés et changeants sur l'hygiène. Un livre classique, une lecture classique, hein, le propre et le sale, qu'est-ce qui est propre, qu'est-ce qui est sale, selon déjà des individus, le seuil de tolérance change. Et selon, évidemment, les sociétés, le seuil de tolérance, lui aussi, n'est pas le même. Mais c'est vrai que ces épidémies vont avoir un effet, notamment au XVIIIe et au XIXe siècle, hein, sur justement ce qui n'est plus tolérable.
Alors on va parler à présent du matériel, du travail de l'historien, c'est les sources. Comment est-ce que l'on fait pour répertorier toutes les maladies et les chiffrer, surtout à une époque où il n'y avait pas Internet et il n'y avait pas d'administration si rigoureuse qu'on connaît maintenant ?
Alors d'abord, l'historien travaille avec tout. Tout est source. Tout est document, hein, tout élément du passé est un document potentiel que l'on peut étudier et duquel on peut tirer des informations. Alors évidemment, il y a les sources écrites. Celles-ci sont les plus classiques pour les historiens, mais il y a aussi d'autres données. Je vais en parler après. Alors les sources écrites, elles, évidemment, avec le développement de l'administration, de l'État, on va dire... dans notre système européen, les données sont de plus en plus importantes. Tant qu'on n'enregistre pas ou qu'on ne conserve pas, par exemple, les naissances, ce qui va donner notre état civil, les naissances, les décès, voilà. Avant, dans l'Ancien Régime, et à la fin du Moyen-Âge, ce sont les baptêmes, les sépultures qu'on enregistre. Ces sources vont permettre déjà de donner des informations. On peut compter les morts et avoir une approche démographique. Pour les périodes plus anciennes, on va dire avant le XIVe siècle, ben, ce n'est pas possible. Mais on va avoir d'autres récits, on va avoir d'autres textes, des récits d'abord. Parce que les chroniqueurs qui racontent la vie du roi, parce que ce que les premiers historiens font, c'est qu'ils vantent les mérites de tel ou tel souverain en disant que c'est le plus fort et que son règne a été merveilleux. Et puis qu'inversement, le souverain voisin était un très méchant et que... Voilà. Bon, eh bien, quand on raconte un règne, une histoire, une bataille même, on peut glisser... une anecdote pour dire qu'à cette époque-là, il y a eu une grave épidémie, une grave peste. Donc, ça ne nous permet pas de chiffrer les choses, ça ne nous permet pas de comprendre, mais ça nous donne des informations. Donc, le travail de l'historien, il est très varié, très variable selon les époques. Quand on étudie les épidémies du 19e ou du 20e siècle, on a une grande documentation écrite à disposition.
Mais alors, qu'est-ce qui permet de prouver la véracité des sources historiques si on peut s'appuyer sur toutes les sources disponibles ?
Alors, justement, c'est la manière de travailler des historiens qui change. Et les historiens sont là pour éclairer le passé, mais comme disait, je ne vais pas citer parce que je l'ai... Mais depuis Marc Bloch, depuis le début du XXe siècle, enfin la première moitié du XXe siècle, on sait que l'historien, il éclaire le passé, mais pour comprendre le présent. Et qu'il est guidé par ses propres questions, les questions de son temps, les questions de sa société. Par exemple, on a longtemps... pas jugé intéressant, pas important d'étudier l'histoire des maladies. Jusqu'aux années 1960-1970, ça ne faisait pas partie, on va dire, du quotidien du travail de l'historien, qui s'intéressait aux guerres, aux politiques, aux religieux, qui s'intéressait à l'économie quand même, depuis quelques décennies, de plus en plus, à la société, mais il y avait plein de champs historiques qui n'étaient pas couverts. C'est ce qu'on a appelé la nouvelle histoire qui s'est développée dans la seconde moitié du XXe siècle, qui a fait entrer dans le champ d'études des historiens des tas de choses nouvelles, des tas de sujets nouveaux, dont les maladies. Alors dans les années 60-70, on s'est intéressé d'abord, par exemple, pour les médiévistes, à la grande peste noire du XIVe siècle. On a été chercher des documents, on a cherché des sources, on en a trouvé. On a eu des bribes, par exemple, des curés qui notaient tous les décès... en Bourgogne ou ailleurs, qui racontaient comment la maladie se propageait. Et puis, on a pu, à partir de ces échantillons, dresser des modèles et arriver à compter les choses à peu près.
Justement, comme les maladies entraînent parfois la mort et que ça touche à des choses religieuses, est-ce que les sources paroissiales, par exemple, c'était des sources fiables pour faire des recherches sur les maladies à l'époque du Moyen-Âge, par exemple ?
Alors, toutes les sources sont des sources fiables. Même quelqu'un qui ment éhontément, par exemple, prendre un discours politique, quelqu'un qui va mentir nous apprend des choses sur la société d'où sort ce mensonge. Même les fake news nous apportent des... Je pense que l'étude des fake news dans le passé, c'est un vrai sujet. Donc, il faut simplement prendre ces sources avec beaucoup de précaution. Oui, Et ça, c'est le travail de l'historien.
Toujours les situer.
Il faut les situer, il faut les travailler, il faut mesurer leur degré de fiabilité. Il faut voir si elles peuvent être extrapolées ou pas. Enfin voilà, donc ça c'est le travail de l'historien que de se saisir de sa documentation, qui est forcément fragmentaire, hein, et puis d'en tirer les informations.
En fait, c'est un réel travail de fourmi. Est-ce que vous travaillez en collaboration avec d'autres historiens dans d'autres régions et qui sont sur les mêmes thèmes de recherche que vous, en France ou à l'étranger ?
Alors, oui, bien sûr, l'historien ne travaille pas seul. Hein, c'est un travail forcément d'équipe, surtout que maintenant, depuis 50 ans ou même un peu plus, l'historien a appris à travailler avec d'autres disciplines. L'étude de l'histoire de la peste, par exemple, la grande thèse de Jean-Noël Birabin dans les années 75, je crois, 1975, qui était la première grande étude historique, est un travail d'historien, mais qui a été réalisé en collaboration avec des médecins, des épidémiologistes. L'historien travaille avec d'autres disciplines. Quand il n'y a pas de source écrite, parce qu'il y a beaucoup de sociétés qui n'ont pas de source de données écrites, eh bien, il faut aller voir d'autres sources. Aujourd'hui, c'est l'archéologie qui nous parle. Quand on trouve, par exemple, il y a encore 20 ans environ, une bonne vingtaine d'années, certains historiens mettaient en doute le caractère aussi fort de la peste noire, en disant non, la peste noire, les moines, les chroniqueurs ont exagéré. Ils ont exagéré. D'ailleurs, on n'a jamais trouvé de fosse avec des tas de corps comme c'est décrit dans les sources écrites. Ce sont des menteurs. Ça a été une manière de penser. Et puis l'archéologie a permis de découvrir ces fosses. Et aujourd'hui, d'identifier dans ces fosses, avec les technologies actuelles, d'identifier le responsable, l'agent responsable de ces morts en nombre, qui était bien la peste de Yersin. Donc voilà, ça c'est l'archéologie. Même aujourd'hui, l'étude, par exemple, sur les variants, qui nous apprend des choses. La peste noire, 1975, la grande thèse, on pensait que c'était une diffusion donc, qui venait de l'Asie, qui s'était effectuée dans le bassin méditerranéen et en Europe. Bon, l'Asie était touchée, on le savait, les mondes chrétiens, les mondes musulmans, ok. Et on avait imaginé que ça s'était arrêté au niveau du Sahara. En fait, c'était un a priori culturel de l'époque. On imaginait que l'Afrique ne bougeait pas, que le Sahara était une frontière, qu'il ne se passait rien à travers le Sahara. Et donc, on imaginait que les mondes africains avaient été épargnés par cette pandémie. Depuis quelques années, c'est très récent, hein, c'est des travaux qui datent des années 2018-2020, on a trouvé les traces de cette pandémie en Afrique. Au Ghana, par exemple, on voit des villes qui s'effondrent. Parce que, on sait maintenant qu'il y a une société urbaine en Afrique, hein, au Moyen-Âge, des villes qui s'effondrent, des populations qui sont démographiquement ravagées. On voit des cultes, par exemple en Éthiopie, des cultes à des saints qui sont censés protéger de la peste, par exemple Saint-Roch, Saint-Sébastien, qui émergent, comme en Europe, en Éthiopie. Et puis on a étudié les derniers variants de peste connus à Madagascar et dans plutôt l'Afrique des Grands Lacs, l'Afrique centrale, et on s'est aperçu que certains étaient rattachables à des éléments découverts donc dans des sépultures et que, oui, bah, la peste au XIVe siècle, elle était présente. Maintenant, on le sait. On ne connaît pas encore tous ses effets sur les sociétés africaines, mais c'est une découverte nouvelle. L'Afrique est connectée au monde, au Moyen-Âge.
Et alors, est-ce qu'on peut dire que les pandémies, elles ont modifié le travail et le regard des historiens ?
Alors, évidemment, parce que l'historien ne reconstitue pas le passé pour s'amuser, pour, comme un divertissement. L'historien pense le passé avec ses yeux, avec les yeux d'un contemporain. Et pour, il le fait pour comprendre, pour éclairer, alors, les sociétés du passé, la diversité, etc., bien sûr, mais pour apporter de l'éclairage à notre façon de penser et de vivre aujourd'hui. Le lien entre le passé et le présent, chez les historiens, il est permanent. Donc oui, je vous disais, il y a 20 ans, on était, certains historiens pensaient que la peste n'avait pas été si grave, la peste du XIVe siècle n'avait pas été si grave. Pourquoi est-ce qu'ils pensaient cela ? C'est parce que ces grandes épidémies avaient disparu. Parce que le développement scientifique avait permis de repousser la variole, le choléra, enfin toutes ces grandes épidémies. Et ces grandes épidémies avaient quasi disparu, où elles étaient, ou bien on ne les voyait plus. Elles étaient ailleurs, elles étaient dans d'autres espaces, pas en Europe. Le retour de ces grandes pandémies avec le Covid a changé le point de vue des historiens en se disant « Ah, après tout, étudier les maladies anciennes, ça peut peut-être nous en apprendre sur notre monde. » Et donc on voit réapparaître les maladies comme de vrais sujets d'étude d'abord. Et puis on va regarder le passé peut-être différemment. Je pense qu'aujourd'hui, plus personne ne met en cause, ne met en doute la gravité de la peste noire ou de la peste justinienne.
Alors comment dans le futur les historiens travailleront sur la période de pandémie qu'on a vécue ces deux dernières années ?
D'abord, les techniques des historiens vont certainement s'améliorer, comme toute discipline scientifique. Il y a une chose qui ne changera probablement pas, c'est que à l'origine d'une étude, il y a une question. Il y a une problématique. Enfin, voilà, on cherche à comprendre quelque chose et on va poser une question. Alors, quelle question les historiens dans 20 ans ou dans 30 ans poseront sur notre présent qui sera devenu un passé ? Je n'en sais rien. Ces questions, elles seront celles des gens qui vivront dans 30 ou dans 50 ans, hein, pour eux comprendre leur monde. Donc, voilà, ça c'est un point évidemment qu'on ignore. Qu'est-ce qu'ils étudieront ? Qu'est-ce qu'ils auront comme documentation ? Ils auront évidemment toute la documentation qu'on voudra bien leur laisser. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, enfin aujourd'hui, depuis le début de l'épidémie, de la pandémie, depuis 2020, on archive. On archive des tas de choses qui peuvent sembler étonnantes.
Des tweets d'Olivier Véran, par exemple ?
Par exemple, ça fera partie, je pense, de la documentation utilisable. Mais on a archivé des choses du confinement, des réactions, des dessins d'enfants. On archive des tas de choses. Je pense qu'on va archiver des masques. En 2 ans, on a vu l'histoire du masque, par exemple. Je pense que c'est une question qui peut être très importante. On n'a pas le recul. Mais on se souvient des premiers masques en tissu. Alors d'abord, tous les discours sur les masques, les anti-masques, etc., ce sera évidemment un sujet intéressant à étudier. Et puis, l'objet, je pense qu'on va archiver. C'est un élément un peu symbolique de notre époque, on va l'archiver. On voit que nous ne portons pas les mêmes. En fonction du moment, on choisit un masque, on en choisit un autre. Je ne vais pas aller à un date avec un masque de tel type. Je ne vais pas aller en cours avec un masque de tel autre. Donc, voilà. Et je crois que ça, c'est un élément, on a appris à vivre avec, et c'est un, par exemple, c'est un élément, moi, d'un point de vue, comme historien, qui m'intéresserait, par exemple.
Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Christophe Manœuvrier, d'avoir accepté l'invitation de Radio Phoenix. Bonne journée à vous.
Merci à vous.
Merci. Et voici l'agenda scientifique de la semaine.
Demain, mercredi, venez assister au réveil du premier blob normand au Dôme, dans le cadre de l'opération nationale Derrière la Recherche, le blob. Sujet scientifique incontournable, popularisé par l'astronaute normand Thomas Pesquet, le blob est une créature unicellulaire qui intéresse beaucoup les scientifiques. En partenariat avec le CNRS et la chercheuse Audrey Dussutour, le Dôme lance une programmation spéciale jusqu'à l'été 2022. Premier rendez-vous de ce programme, demain de 14h à 16h. Vous pouvez vous inscrire gratuitement sur ledôme.info pour assister au réveil du Blob Normand.
Aujourd'hui, à 14h15, le cinéma Café des Images d'Hérouville-Saint-Clair organise la projection au format court du documentaire « Dans les yeux de Thomas Pesquet ». Réalisé par Jürgen Hansen et Pierre-Emmanuel Le Goff, le long-métrage sortira en salle le 27 avril 2022. L'occasion pour les spectateurs de revivre les 6 mois de mission de Thomas Pesquet, de sa préparation jusqu'aux sorties extravéhiculaires. Le Café des Images vous invite à découvrir aujourd'hui le parcours de l'astronaute normand dans la version courte de ce documentaire. Il sera suivi d'une animation ludique d'éducation à l'image intitulée « Clap ou pas clap ».
Et enfin ce soir sur France 5, l'émission « Prenez soin de vous » revient. Elle est présentée par Michel Simès et abordera les douleurs articulaires avec 3 patients qui en sont victimes. Les articulations font souffrir plus d'un Français sur deux. L'arthrose, le télétravail et la sédentarité sont souvent à l'origine de ces douleurs qui se manifestent dans le dos, les épaules, les genoux ou les hanches. Alors des programmes médicaux existent pour lutter contre ces douleurs. Entraînement physique sur mesure, changement d'habitude de vie, conseils pratiques et techniques. Vous pourrez suivre ces méthodes, mais aussi les conseils des champions Christine Aron, sprinteuse, et de Frédéric Bousquet, qui est nageur. Prenez soin de vous sur les douleurs articulaires. C'est ce soir dès 21h sur France 5.
Vous écoutez C'est pas faux sur Radio Phoenix.
C'est pas faux sur l'histoire des pandémies, c'est terminé pour aujourd'hui. Vous pouvez réécouter les précédentes émissions en podcast sur phoenix.fm.
D'ici 10 minutes à 13h, vous retrouverez Edgar pour la Méridienne. Merci à Alan qui a réalisé cette émission. On se retrouve la semaine prochaine sur Radio Phoenix.